France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Avec Free, tout sera permis, même les sites interdits. L'opérateur téléphonique propose à ses clients un système pour contourner les blocages. Les associations de protection des enfants alertent. Explication dans un instant. À suivre encore la journée de mobilisation intersyndicale. Cortège fourni ce matin à Marseille. Nous y serons. Des actions moins nombreuses que prévues, nous dit le ministère de l'Intérieur ce matin. Ministère qui utilise très largement les drones pour surveiller les cortèges. Nous verrons comment. Nous parlerons également de l'une des personnalités les plus célèbres de la télé américaine, suspendue d'antenne. Bonjour Nicolas Teilhard.
Bonjour.
Il s'agit de Jimmy Kimmel.
Star des émissions de divertissement du soir, emporté par une polémique suite à la mort de l'influenceur Charlie Kirk.
A tout de suite pour vos informations. À suivre encore, un ex-champion du monde du 100 mètres qui rejoint les Jeux des dopés. Les frais de représentation de la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui font polémique, et un tableau de Pablo Picasso dévoilé à Paris, sans oublier la chaleur, plus de 30 degrés aujourd'hui sur l'Hexagone, prévision complète dans une demi-heure. À partir de 13h30, l'élève et le maître, Marc-André Morizzi, 18 ans, champion de France d'échecs le mois dernier, et son entraîneur, Laurent Fraissinet, qui fut son adversaire en finale. Ils sont avec nous pour refaire le match. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h45, une semaine dans la vie d'Ousmane Dembélé.
Ousmane, c'est quelqu'un qui déjà est très casanier. Il faut vraiment avoir quelque chose d'intéressant à lui proposer pour le tirer dehors. Il s'enferme à la maison, il se met un documentaire. Il aime bien l'histoire.
Personnalité étonnante, nous verrons cela. 13h50, c'est la France. Le retour du verju, nous dira Marie-Luce Ribot du journal Sud-Ouest. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, la romancière Florence Sévos demande Bob Dylan à Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Accéder à tout Internet, y compris aux sites bannis en France. Tout cela depuis votre portable. Voilà ce que propose depuis deux jours l'opérateur de téléphonie Free et gratuitement, ce qui pose le problème de la protection des plus jeunes, notamment l'accès aux sites pornographiques. Bonjour Adrien Serrière.
Bonjour Jérôme.
Expliquez-nous d'abord comment ça fonctionne. Les forfaits Free proposent un VPN gratuit. Qu'est-ce que c'est qu'un VPN ?
Alors déjà, c'est un acronyme anglais, réseau privé virtuel. C'est un logiciel qui relie votre ordinateur à un serveur situé à l'étranger. De cette manière, votre connexion est chiffrée. Vous ne laissez pas de données personnelles sur les sites que vous visitez. En gros, vous naviguez anonymement, plus sûrement, et vous pouvez accéder à des contenus réservés à d'autres pays. C'est légal, même si les VPN peuvent permettre d'accéder à des sites illégaux. La plupart des logiciels sur le marché sont payants.
Ça veut dire que l'utilisateur échappe à la réglementation française ?
Absolument. Depuis mardi, n'importe quel abonné Free Mobile peut contourner le blocage des sites pornographiques qui sont soumis depuis le début d'année à une vérification de l'âge des internautes. Officiellement, Free présente son VPN comme un outil qui renforce la protection sur Internet. Mais cette communication ne dupe personne. Écoutez Nicolas Lelouch, journaliste à Numérama.
Le choix de Free est d'avoir un VPN qui est hébergé en Italie ou aux Pays-Bas, qui sont deux pays qui n'ont pas de contrôle sur la pornographie, par exemple, qui ne suppriment pas les liens de streaming illégal quand il y a un match de foot. Donc avec ce lancement-là, même si Free ne peut pas le marketer de cette manière, c'est clairement un moyen pour les abonnés de contourner les restrictions françaises.
Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, le patron de Free, Xavier Niel, s'amuse à sa manière à évoquer le sujet plus ou moins directement. Lui qui a toujours défendu un Internet libre et ouvert. Avec ce forfait VPN, il adresse un nouveau défi aux autorités.
Et cette initiative de Free marque un coup d'arrêt pour les acteurs de la protection de l'enfance. Écoutez la réaction de Justine Atlan, c'est la directrice générale de l'association e-enfance.
À la fois, ça ne nous surprend pas du tout de l'opérateur Free qui, voilà, depuis qu'il existe, n'a jamais investi la protection des mineurs en ligne. On y voit même une forme de provocation, et notamment de Xavier Niel, mais on le reconnaît bien là-dedans. Plus largement, c'est vrai que c'est très inquiétant qu'un opérateur, malgré tout, et un fournisseur d'accès Internet qui lui-même doit appliquer la loi. Hein. C'est ça qui est quand même dramatique, c'est de voir que l'appât du lucre et du profit l'emporte largement sur des notions d'intérêt général et notamment sur la protection protection des mineurs et l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc on espère que cette action de Free va rester marginale, mais peut-être qu'il y a des moyens aussi, s'il continue à être aussi provocateur, de le contraindre à arrêter cette provocation.
Justine Atlan de l'association e-Enfance. Merci Adrien Serrière. Venons-en à cette journée de mobilisation intersyndicale, c'est-à-dire décidée par l'ensemble des syndicats représentatifs. C'est une première depuis 2023 et le mouvement contre la réforme des retraites. Alors cette fois, le mot d'ordre est moins précis puisque le déclencheur de ce mouvement, le projet de budget présenté l'été dernier par François Bayrou, est en pause. Il s'agit donc de peser sur les choix du nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu. On va voir ça dans un instant. On va parler aussi sécurité. Mais avant cela, parole au premier manifestant du jour à Marseille, l'un des 250 cortèges du pays. 15 000 manifestants, selon la préfecture des Bouches-du-Rhône, suivi par Mathilde Vinceneuf.
Couper dans le budget, c'est couper dans nos vies, a écrit un manifestant sur son t-shirt. Les économies, c'est plus possible, scande Jemila, infirmière dans le seul hôpital psychiatrique des quartiers nord de Marseille et membre du syndicat Force Ouvrière.
On a des gouvernements successifs qui nous saignent depuis des années, mais alors là, c'est le comble. Nous, l'hôpital, on a des budgets qui diminuent. En 2 ans, l'hôpital a fermé 2 services, l'unité d'hospitalisation, donc au moment où on a le plus besoin de soins psychiatriques.
La politique d'austérité a des conséquences concrètes, dénonce Jean Cugier au milieu des fumigènes. Il est professeur d'EPS dans un lycée de Marseille.
Par exemple, nous, pour nos élèves, le sport scolaire, vous savez, le mercredi après-midi où on paye avec une petite licence, petite cotisation au sein de son établissement, ça disparaît.
Le ras-le-bol est partagé par tous les métiers, constate Vincent Vitrac, représentant CFDT pour la métallurgie.
Là-bas, vous avez un représentant des commerces, tout à l'heure j'ai croisé les banques, il y a tout le monde. Je me dis qu'on subit tous les mêmes pressions au travail. Globalement, il y a un gros problème de pouvoir d'achat. Ça peut plus durer. Ouais. Mais on a des salariés, même dans des grands groupes, qui à la fin du mois, ils mangent pas le midi. Et ça, c'est plus acceptable. Des gens qui travaillent, c'est pas normal qu'ils soient dans la précarité.
Il faut arrêter de demander des efforts aux travailleurs, disent les représentants syndicaux dans le cortège. Taxer les riches, peut-on lire sur de nombreuses pancartes.
Mathilde Vinceneux à Marseille pour Inter. Le cortège parisien, lui, s'élancera à 14h avec les principaux leaders syndicaux. On verra quelle sera l'affluence cet après-midi. En tout cas, la grève semble bien suivie dans l'éducation nationale. 45% de grévistes dans les collèges et lycées, nous dit le SNES-FSU. C'est le premier syndicat du secondaire avec des blocages complets ou partiels de lycées. 75 lycées bloqués, nous dit le ministère de l'Éducation nationale, qui lui avance le chiffre de 17% d'enseignants grévistes aujourd'hui. Dans les transports, la SNCF parle toujours de 9 TGV en circulation sur 10. Mais ce matin, 9 TGV sur 19 ont été annulés sur la seule ligne Paris-Lille. Forte perturbation dans le TER, dans les RER également et dans les métros en Ile-de-France. Bref, circuler ce matin dans les transports en commun était un vrai défi. Bonjour Mathieu Bonnour.
Bonjour.
Et vous l'avez constaté à Paris.
Les bouches de métro où les lignes ne sont pas automatiques sont fermés avec une grille en dehors des heures de pointe. Gary se retrouve coincé.
Comme je travaille à l'hôpital assez tôt, autrement, sinon je vais essayer de prendre le tramway, je vais voir. Il arrive, il est pas loin.
Vous partez dans celui-là ou pas? Dans ce sens-là?
C'est la première fois, il faut que je regarde l'itinéraire.
Il file à toute vitesse pour monter dans le tramway, rempli de monde avec de la buée sur les vitres à l'intérieur. Un peu plus tard, lorsque la ligne 13 se met à fonctionner avec un métro sur 4, c'est la même galère. Beaucoup de voyageurs qui tentent d'avoir une place. Thibaut vient tout juste d'en sortir.
Un peu plus de monde que d'habitude. Je suis arrivé à peu près au bon moment avec l'application, j'ai pu timer ça, donc ça allait. La 13 devait m'emmener sur l'autre côté vers Asnières-Gennevilliers, ça s'était fermé. Et donc je me suis retrouvé ici à Port de Saint-Ouen et je vais essayer de prendre une correspondance avec un bus.
D'autres abandonnent même l'idée des transports en commun pour cette journée. C'est le cas de Clément, les yeux rivés sur son téléphone.
Je savais pas que c'était tout bloqué. J'avoue que je débarque un peu là. On va faire avec, j'ai pris un Uber, ça coûte un peu cher. J'imagine que pour les Parisiens ça va être chiant aujourd'hui. Oula, les gens sont à cran.
Et puis, il y a la solution de repli, les vélos. Mais ceux en libre-service sont pris d'assaut. Là où nous étions, il n'y en avait plus un seul disponible.
Merci Mathieu Bonnour. Marie Mollet, service politique d'Inter, nous rejoint. Bonjour Marie.
Bonjour.
Alors ces grèves, ces manifestations peuvent-elles peser sur les choix que va faire le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu?
Bien sûr, la taille des cortèges aujourd'hui aura une incidence sur les futures négociations politiques. C'est ce que nous disait hier un pilier du Bloc central, thermomètre du niveau de mécontentement chez les Français. et le PS va se servir de la pression de la rue comme argument pour faire monter les enchères, prédit un conseiller de l'exécutif. Regardez, hier déjà, ils sont arrivés à Matignon avec un sondage maison pour expliquer que les Français sont d'accord avec eux. Ce matin, Olivier Faure les appelait à exercer un rapport de force avec le gouvernement. Alors pour tenter de dévitaliser la mobilisation d'aujourd'hui, Sébastien Lecornu a lâché du lest en amont, enterré la suppression des deux jours fériés, annoncé une mesure symbolique, la fin des avantages pour les anciens premiers ministres. Est-ce qu'il pourrait aller plus loin dès demain et offrir vite un trophée aux syndicats pour faire redescendre la pression ? Non, ce serait une erreur, répètent en chœur plusieurs ténors du bloc central. Surtout ne pas faire des concessions par petits bouts et négocier plutôt un accord global avec le PS. Ce ne sont pas les syndicats qui peuvent le faire tomber, mais les députés, rappelle un conseiller. Sébastien Lecornu lui a pris soin de rester muet sur ses propres pistes budgétaires pour ne pas donner de prise à la contestation sociale et des idées de slogans dans les cortèges.
Marie Mollet, autre enjeu pour ce gouvernement démissionnaire, la sécurité. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a mobilisé plus de 80 000 policiers et gendarmes. Selon lui, les actions type blocage ou envahissement de routes sont à ce stade moins intenses que prévu, c'est ce qu'il a dit dans la matinée. 84 personnes interpellées selon ces chiffres à midi, dont 33 placées en garde à vue. Des forces de l'ordre qui vont s'appuyer aujourd'hui sur les drones pour surveiller les manifestations avec un déploiement massif ainsi à Bayonne. Autorisation donnée comme la semaine dernière par le préfet Jean-Marie Girier qui réfute le mot surveillance.
C'est pas pour surveiller, c'est pas pour identifier qui que ce soit, c'est pour permettre à nos policiers et à nos gendarmes d'accompagner au mieux la sécurisation des cortèges. Il peut aussi y avoir un usage judiciaire qui n'est pas décidé par le préfet, mais décidé par un procureur de la République, qui permet à ce moment-là d'avoir l'usage d'un drone à des fins judiciaires, c'est-à-dire pour avoir des preuves d'actions qui seraient commises. Et à tout moment, un procureur de la République peut décider que l'usage du drone bascule de l'administratif décidé par le préfet en judiciaire décidé par l'autorité judiciaire.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques au micro d'ici Pays Basque. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Malgré les protestations des associations de défense des libertés individuelles, le déploiement d'aujourd'hui est sans précédent.
Un usage massif et sans aucun doute inédit puisque la flotte n'a cessé de grossir depuis 5 ans. La gendarmerie dispose actuellement de près de 1000 drones, 965 précisément, 650 pour la police nationale. Combien seront utilisés exactement aujourd'hui ? C'est en fait impossible à dire, confié à un officier du ministère de l'Intérieur ce matin. En prenant pour exemple Paris, est-ce que les drones des gendarmes disposés en permanence sur un certain nombre de monuments sensibles de la capitale décolleront ? Pas si sûr, cela dépendra de la tournure des événements et la police parisienne est déjà très bien équipée de ce côté-là. Et puis, quel sera l'usage des drones en Normandie, notamment après une série d'arrêtés du tribunal administratif à la suite des manifestations de la semaine dernière, arrêtés qui ont suspendu l'autorisation de survol de manifestations à Gonfreville, au Havre et à Rouen, estimant que les périmètres et la nature des opérations de police et de gendarmerie n'étaient pas assez précisés. Un exemple parmi toute une série de recours devant les tribunaux, effectivement. Alors, les préfets sont censés revoir leurs copies pour mieux respecter la loi. De sources policières, on rappelle que les drones sont utiles une fois qu'une manif dégénère pour déjouer les black blocs ou pour suivre des auteurs de pillage et de destruction afin de constituer des preuves judiciaires, on l'a entendu avec le préfet du Pays Basque.
Emmanuel Leclerc, là, rien à voir avec la mobilisation sociale. Le week-end dernier, à Paris, quartier des Halles, une distribution de repas gratuits par une enseigne de fast-food a tourné à l'émeute. Opération commerciale, les organisateurs ont été débordés par l'affluence et la police a dû intervenir. Eh bien, il s'est produit exactement la même chose hier à Saint-Étienne pour l'inauguration d'un burger. Plusieurs centaines de jeunes étaient au rendez-vous. Là encore, la police a été appelée. Sur place, Clément Arnal.
Une heure avant l'ouverture, la rue d'Ormois est déjà complètement saturée. Environ 300 jeunes attendent, les 100 premiers clients peuvent manger gratuitement et des cadeaux comme des consoles de jeux sont à gagner. Certains essayent de rentrer de force, explique Saïd, employé de Point B.
Et en fait, ils ont voulu ouvrir par infraction, quoi. Ils ont voulu rentrer en tapant avec leurs pieds et du coup, la police sont arrivés Ils les ont évacués.
Une évacuation à l'aide de gaz lacrymogène qui a excité la foule, explique Kayla, en charge de la communication pour l'événement.
Malheureusement, ça anime aussi les jeunes, c'est leur activité. Ils se disent, on va jouer avec les policiers. Nous, on n'était que spectateurs de ça. Nous, on ne comprenait pas vraiment ce qui s'est passé.
Les jeunes reviennent plusieurs fois dans la rue, dans une sorte de jeu du chat et de la souris avec la police. Elohim et Maëlys, deux collégiennes, étaient parmi eux.
Je suis désolée, c'était dangereux, mais c'était tellement intense. C'était trop drôle. C'était trop excitant, c'était vraiment trop drôle.
C'était bien, mais il y en a qui foutent trop la merde. Du coup, ça a tout fermé. Ils jettent des chaises, ils poussent les policiers. Et c'est dommage, quoi.
Et les jeunes dénoncent aussi des violences de la part des salariés du restaurant. J'ai pu en voir bousculer des enfants et copieusement les insulter. Quatre jeunes ont été placés en garde à vue après ces mouvements de foule.
Reportage ici Saint-Étienne-Loire.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
L'enquête a été publiée la semaine dernière par le quotidien britannique The Guardian. Pendant plusieurs mois, ces journalistes, mais aussi ceux d'autres médias comme les Allemands de Der Spiegel, ont tenté d'en savoir plus sur une unité de l'armée israélienne engagée à Gaza. Et voilà ce qu'ils nous apprennent. Cette unité, baptisée Ghost, fantôme donc, cette unité était composée de soldats, des snipers chargés d'abattre des civils palestiniens. Cette équipe en aurait tué plus de 100. L'un des membres de cette unité témoigne d'ailleurs dans cette enquête. Bonjour Eric Begala.
Bonjour Jérôme.
Élément important, les faits remontent à novembre 2023.
Oui, c'était un mois après le déclenchement de l'offensive israélienne sur Gaza. Et à l'époque, il y avait clairement un élément de vengeance dans les actions de l'armée israélienne. C'est peut-être cet état d'esprit qui a prévalu dans les actions du groupe Fantôme. Daniel Raab, l'un de ces snipers israéliens interviewés par ce qu'il croyait être un média israélien, en vérité un membre de l'équipe d'investigation, confirme qu'il a lui-même abattu plusieurs civils désarmés. Ce groupe Fantôme n'était pas une unité constituée. Fantôme, c'était le nom qu'ils se donnaient entre eux, mais ces snipers étaient bel et bien intégrés dans toute la chaîne de commandement militaire israélienne. Beaucoup sont des binationaux. Daniel Raab est un israélo-américain. Son acolyte Daniel Gretz, un autre de ces snipers nommément identifié par l'enquête, possède la nationalité allemande, lui. Les enquêteurs ont retrouvé les lieux précis où ils s'étaient embusqués, ont récupéré des vidéos montrant leurs tirs sur des civils désarmés, notamment ceux qui venaient récupérer les corps de leurs proches. Quatre membres d'une même famille ont ainsi été successivement abattus par le groupe Fantôme. Abattre des civils désarmés, notamment ceux qui viennent récupérer les corps, est expressément interdit par les règles d'engagement de l'armée israélienne. C'est aussi une claire violation de la loi humanitaire internationale et à ce titre, ceux qui en sont responsables peuvent être poursuivis pour crimes de guerre.
Eric Begala, le chef de la diplomatie syrienne, est en visite aux États-Unis aujourd'hui. Il représente la coalition islamiste qui a chassé Bachar al-Assad du pouvoir et selon Damas, Israël et la Syrie, en guerre depuis des décennies, pourraient signer plusieurs accords de sécurité d'ici la fin de l'année. Mais ce qui fait la une en ce moment aux États-Unis et depuis la nuit dernière, c'est le retrait de l'antenne d'une des figures les plus populaires de la télévision américaine, l'humoriste Jimmy Kimmel. C'est une décision de sa chaîne ABC, propriété du groupe Disney, pour avoir accusé la droite américaine d'exploiter l'assassinat la semaine dernière de l'influenceur Charlie Kirk. Voilà la phrase de Kimmel qui est en cause. Nous avons atteint de nouveaux sommets ce week-end, dit-il, avec la bande de MAGA qui tente désespérément de présenter ce gamin qui a assassiné Charlie Kirk comme n'étant pas l'un des leurs et qui fait tout son possible pour en tirer un avantage politique. Fin de citation, je précise que Kimmel avait aussi, juste après l'assassinat, présenté ses condoléances à la famille de Charlie Kirk. Nicolas Taillard, direction internationale de Radio Français, est avec nous pour qu'on comprenne bien l'importance de cette affaire. Nicolas, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui est Jimmy Kimmel ?
Énorme star aux États-Unis, l'un des visages assurément les plus connus de la chaîne ABC, sur laquelle il occupe depuis 22 ans maintenant la tranche de fin de soirée avec son Jimmy Kimmel Live. Ça fait partie des late shows, ces émissions du soir très populaires qui mêlent divertissement, interviews de célébrités, billets d'actualité. Allez, pour vous donner une idée, ça se rapprocherait de ce qu'ont pu faire Yann Barthès ou Laurent Ruquier en France. Des émissions où Donald Trump est évidemment régulièrement ciblé, notamment par Kimmel, qui l'avait aussi égratigné sur la scène des Oscars en 2024, alors qu'il présidait la cérémonie.
Et cette suspension de Kimmel est en fait une nouvelle étape dans le conflit qui a été déclenché par Donald Trump avec de nombreux médias américains.
Bataille déjà ancienne, mais pression décuplée depuis janvier, tri des journalistes, accès limité à la Maison-Blanche quand ce n'est pas Trump lui-même qui impose ses conditions. Des chaînes succombent à la pression et certaines figures jugées hostiles à la galaxie MAGA sont emportées par la vague. On peut citer un autre animateur emblématique, Stephen Colbert, le producteur de l'émission historique d'investigation 60 Minutes ou encore la directrice de la radio publique. Pression politique et financière à l'image de cette procédure engagée par Trump cette semaine contre le New York Times avec un montant astronomique de 15 milliards de dollars réclamé par le président après des articles qui lui ont déplu.
Mais ça va bien au-delà du ciblage des médias en fait.
L'offensive ici s'étend à la population avec une traque de tous les propos hostiles à Charlie Kirk ces derniers jours sur les réseaux sociaux et un appel du vice-président J.D. Vance en personne à dénoncer leurs auteurs à leurs employeurs. La consigne a provoqué le licenciement immédiat de dizaines de personnes pour des messages postés en ligne. Des réseaux où Donald Trump, comme Elon Musk avant lui, défendait pourtant ardemment une liberté d'expression sans limite, à condition visiblement qu'elle convienne à leur camp.
Merci Nicolas Théillard. J'ajoute que le président américain Donald Trump s'est réjoui la nuit dernière de cette décision. Trump, toujours en visite au Royaume-Uni, il rencontre aujourd'hui le Premier ministre britannique Keir Starmer. Comment la maire de Paris, Anne Hidalgo, a-t-elle dépensé l'argent public qui lui est alloué pour ses frais ? Après des mois de bras de fer judiciaire, l'association Transparence Citoyenne a fini par se procurer une partie de ses notes de frais. Certaines ont été publiées sur les réseaux sociaux. Mediapart a pu les consulter. Sonia Gobry, près de 210 000 euros ont été dépensés pour des vêtements et des voyages par la maire de Paris entre 2020 et 2024.
Oui, dont près de 125 000 euros de frais de déplacement en 3 ans, avec notamment un voyage à Tahiti pour visiter un site olympique. Rendez-vous qu'Anne Hidalgo a finalement séché pour aller voir sa fille. Une enquête préliminaire a été ouverte pour prise illégale d'intérêts et détournement de fonds publics. Autre volet, les frais de représentation. La maire de Paris dispose d'une enveloppe annuelle de 20 000 euros, jamais utilisée intégralement. Elle la consacre surtout à des vêtements, la plupart achetés entre 500 et 1 000 euros, avec quelques exceptions, deux robes Dior à 6 300 euros ou encore un manteau Burberry à 3 000 euros. Mais cet argent a-t-il été utilisé à bon droit ? Selon Transparence Citoyenne, non. Pour l'association, les frais d'habillement doivent être liés à des cérémonies particulières nécessitant par exemple une tenue de gala. Le cabinet d'Anne Hidalgo conteste, lui, cette lecture stricte d'un texte de la Chambre régionale des comptes et défend, en tant que maire de Paris, elle participe à de nombreuses représentations et doit, je cite, « représenter la culture française et la haute couture ».
Précision Sonia Gobry. Personnellement, j'ai été profondément atteint par le récit des personnes que j'ai reçues et que j'ai écoutées. Ces mots étaient ceux de l'archevêque de Marseille, Jean-Marc Aveline, en 2021, après la publication du rapport de la SIAZ qui révélait l'ampleur des abus sexuels dans l'Église. Depuis, Jean-Marc Aveline est devenu président de la Conférence des évêques de France. Et une longue enquête, publiée aujourd'hui par Paris Match, le met en cause. Il aurait lui-même passé sous silence plusieurs affaires, selon l'hebdomadaire, dont une qui interroge particulièrement Delphine Evenoux.
Les agressions sexuelles dénoncées par plusieurs victimes dans les colonnes de Paris Match remontent au début des années 90, commises par un prêtre à la tête d'une association pour enfants défavorisés dans les quartiers nord de Marseille. Il y a 5 ans, elles confrontent le prêtre à leurs accusations, il avoue. Jean-Marc Aveline contacte l'une d'elles, lui demande de ne pas faire de vagues, promet de revenir avec des réponses, peut-on lire. Puis plus rien. Yacine apprendra plus tard par un enquêteur de police que son agresseur est toujours en poste. La justice a depuis reconnu les faits, mais l'affaire est classée pour prescription. Dans un long communiqué publié dans la foulée de la parution de l'article, le diocèse de Marseille reconnaît avoir reçu un témoignage à l'été 2020, mais dément formellement les propos prêtés au cardinal Aveline. Il assure qu'un signalement a bien été fait au procureur par la communauté religieuse dont dépend le prêtre incriminé. Une gouvernance marquée par le silence et l'opacité, tranche un collectif local de catholiques. Ils viennent d'écrire au pape Léon pour réclamer la démission de l'archevêque de Marseille.
Delphine Evenoux. À Quimper, 3 anciennes aides-soignantes d'un EHPAD de Pleuvennes dans le Finistère sont jugées cet après-midi pour violence sur personnes vulnérables. Elles sont soupçonnées d'avoir simulé une course en fauteuil roulant avec une résidente âgée de 89 ans et de l'avoir filmée. La maison de retraite, le centre intercommunal d'action sociale et sa famille se sont constitués par partie civile. Récit Delphine Gotchaud.
Ce midi-là, Janine vient de terminer son repas avec les autres résidents de l'EHPAD. Cela fait 2 ans que la vieille dame y réside. Sur la vidéo tournée par une aide-soignante, on voit l'une de ses collègues s'installer dans le fauteuil roulant de Janine avant de la prendre sur ses genoux. La troisième employée les pousse alors à vive allure dans le couloir. Janine pleure, crie, visiblement apeurée. Les aides-soignantes, elles, rigolent. La direction de la maison de retraite découvre l'existence de la vidéo 8 mois plus tard et informe la famille de Janine. Sa fille, Corinne, son prénom a été modifié à sa demande, tombe des nues, sa mère ne lui en a jamais parlé. Aujourd'hui, elle attend des excuses des prévenus.
Je veux qu'elle comprenne que l'être humain, c'est pas un ballon avec lequel on joue. Si on se sent puissant à faire ça à 1h30 de l'après-midi, alors qu'il y a quand même du monde, qu'est-ce qu'elles ont fait d'autre ? Est-ce qu'elles se sont amusées autrement ? Ça, je ne pourrais jamais le savoir.
Car Janine n'a jamais parlé de cet épisode à ses enfants, sans doute trop traumatisée, a expliqué un psychologue à Corinne. Elle est morte dans son sommeil le 24 septembre dernier, à l'âge de 90 ans.
Imprécision ici, Brice Hizel. En plein championnat du monde d'athlétisme à Tokyo, c'est une bombe qui explose dans le sport international où la chasse au dopage est officiellement une priorité. L'un des sprinteurs les plus célèbres, l'américain Fred Carley, champion du monde du 100 mètres il y a 3 ans, annonce qu'il va participer au jeu du dopage, pour aller plus vite, mais aussi pour toucher davantage d'argent. Emma Sarango, de quoi s'agit-il ?
Les Enhanced Games, littéralement, les jeux améliorés, dont la toute première édition doit se tenir en mai prochain à Las Vegas, avec un mot d'ordre « dopez-vous ». Jusqu'à présent, les organisateurs avaient recruté essentiellement des nageurs, notamment l'ex-champion du monde australien James Magnussen, mais c'est la première fois qu'une star de l'athlétisme rejoint le mouvement. Fred Carley, 30 ans, suspendu justement depuis un mois par les instances antidopage pour défaut de localisation. L'Américain, double médaillé olympique, explique dans un communiqué « J'avais l'impression d'être en prison, limité, écrit-il, dans la prise de médicaments en vente libre. Maintenant, j'ai l'esprit tranquille, assure Carley, dont l'ambition est désormais de devenir l'humain le plus rapide de l'histoire. Lui, qui est descendu à 9 secondes 76 centièmes sur 100 mètres, loin encore des 9 secondes 58 du Usain Bolt, mais avec des produits dopants, il devrait s'en approcher, sachant qu'un bonus d'$1 million est déjà promis à celui qui fera tomber le record du monde. $1 million, c'est le prix que Carley est donc prêt à payer pour manquer les JO à domicile. Car son engagement avec les Jeux dédopés l'exclura probablement de fait de ceux de Los Angeles en 2028.
L'équipe de France masculine de volley à 2 doigts de l'élimination au championnat du monde aux Philippines. Les Français affrontent l'Argentine en match de qualification. Une défaite et ils sont éliminés. Ils sont menés 2-7-0 par les Argentins et 17 partout dans la troisième manche. Buste de femme au chapeau à fleurs. Voilà le nom de ce tableau de Pablo Picasso, dévoilé aujourd'hui. C'est l'hôtel de vente Drouot à Paris qui l'a présenté ce matin. Alors le titre, certes, est banal, mais son histoire ne l'est pas du tout. Bonjour Julien Baldacchino.
Bonjour.
C'est un portrait peint en 1943, vendu l'année suivante, donc 1944, et qui n'avait jamais été montré en public depuis. Qui est cette femme sur ce tableau, Julien ?
Eh bien, il s'agit de Dora Maar, la compagne de Picasso, qui était elle aussi artiste et qui avait mis sa carrière de côté pour être aux côtés du peintre espagnol. Le portrait est très coloré, il rappelle les autres représentations de Dora Maar qui, elles, sont bien connues, à ceci près que ce tableau-là date du moment de leur rupture. Ce tableau n'était pas complètement inconnu des spécialistes, en revanche, on ne savait pas qui le possédait. Christophe Lucien est le commissaire priseur de la vente.
C'est un tableau qu'on a découvert au gré d'un inventaire de succession et qui a été une immense émotion pour nous. Ce tableau n'était connu jusqu'ici qu'en noir et blanc, puisqu'il a été représenté sur des photos de Brassailles dans l'atelier de Picasso en 1944. Donc jusqu'ici, les historiens d'art ne le connaissaient que sous des traits grisés. Il réapparaît dans toute sa couleur et on est estomaqué par les couleurs de ce tableau.
Un très bon coup de projecteur donc pour ce tableau et pour l'hôtel Drouot. Le prix de réserve est à 8 millions d'euros, mais avec ce caractère exceptionnel, les prix pourraient s'envoler. La vente aura lieu dans un peu plus d'un mois, le 24 octobre.
Merci Julien Baldacchino. 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac. Puis à partir de 13h30, nous parlons des échecs. Jeu inventé il y a 1500 ans. Mais qui se réinvente en ligne avec de plus en plus d'adeptes. Marc-Andrea Morizzi, champion de France d'échecs, et son coach Laurent Fraissinet sont avec nous. J'attends vos questions et témoignages. 01 45 24 7000. 13h45, notre feuilleton, le fabuleux destin d'Ousmane Dembélé. Aujourd'hui, on parle interro surprise, Charles Aznavour et grand dictateur. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Marie-Luce Ribot et Frédéric Pommier, bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour à tous.
Marie-Luce, on part dans les vignes.
Oui, à la découverte du verjus réalisé à partir du raisin que l'on vendange en ce moment. Le verjus est à la mode chez le chef étoilé, mais pourrait bien aussi débriquer dans notre cuisine.
Et avec vous, Frédéric, une écrivaine.
Elle est également scénariste. Il s'agit de Florence Cévos, lauréate du dernier prix du Livre Inter, pour son roman Un perdant magnifique. Et avec elle, c'est la voix et la poésie de Bob Dylan que nous écouterons avec une chanson sortie pendant le confinement.
Nous l'avions reçue ici même.
Florence.
Oui, pas Bob Dylan.
Pas Bob.
Ça sera la semaine prochaine
avec nous.
Bob Dylan. À tout à l'heure.
France Inter, 15h, Fabrice Drouel.
Ce jeudi, je vous raconte l'histoire de Playtime, le film qui a ruiné Jacques Tati. Film très cher, échec commercial retentissant, qui marque le début de la fin de ce cinéaste si original.
Affaires sensibles, tous les jours à 15h, sur France Inter.
T'as vu ? Le voisin a refait ses extérieurs.
Tu parles, c'est un spécialiste qui l'a fait, c'est Daniel Moquet.
Eh ben, nous aussi allons voir ce Daniel Moquet.
Du vendredi 26 au dimanche 28 septembre, rendez-vous aux portes ouvertes Daniel Moquet. Pour vos allées, terrasses, clôtures, pergolas, faites confiance aux spécialistes de vos aménagements extérieurs. Daniel Moquet. Tout est OK.
Parce que l'on a tous un proche victime du cancer, on sait à quel point il est important d'aider la recherche. C'est pourquoi Gustave Roussy, premier centre de lutte contre le cancer en Europe, s'est fixé l'objectif de guérir le cancer au XXIe siècle. En désignant l'Institut Gustave Roussy comme bénéficiaire d'un legs, d'une donation ou d'une assurance vie, vous donnez à nos chercheurs et à nos médecins les moyens de sauver des vies. Appelez dès maintenant le 0800 710 400 pour recevoir notre brochure legs, donation et assurance vie.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec les cafés Malongo, torréfacteurs engagés depuis 30 ans dans le commerce équitable. Les petits producteurs font les grands cafés sur malongo.com.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
C'est une journée ensoleillée, beaucoup plus chaude.
Oui, du soleil au programme quasiment partout. Alors on trouve encore des nuages tout de même le long de la Manche qui restent plus présents dans l'après-midi sur la pointe bretonne, le Cotentin, le Pas-de-Calais. Le vent de sud-ouest peut encore atteindre 50 km à l'heure sur les littorales des Hauts-de-France. Le vent marin et le vent d'Autan se mettent en place dans l'après-midi de l'Aude au Midi toulousain. Des nuages bas vont s'inviter ce soir et cette nuit sur le littoral du Languedoc-Roussillon. Et puis l'ambiance en effet se réchauffe nettement. Les températures reprennent des allures estivales. On attend 21 à 25 degrés. Degrés près de la Manche, 25 à 29 sur les autres régions du Nord, 27 à 31 degrés près de la Méditerranée, sur Rhône-Alpes également et jusqu'à 32 à 35 sur le Sud-Ouest. Demain, ce sera à nouveau une journée très ensoleillée avec quelques degrés de plus. Les 30 degrés vont remonter vers les régions du Nord. On atteindra les 35 degrés sur le Sud-Ouest et puis ça va se dégrader progressivement par le week-end, par l'Ouest pour ce week-end.
Moins chaud donc ce week-end.
Oui, surtout dimanche.
Merci Elodie Calac, Météo France.
France Inter. Le 13-14, Jérôme Cadet.
25 ans d'écart, mais une même passion. Deux grands maîtres du jeu d'échecs sont avec nous aujourd'hui. Marc-Andrea Morizzi, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 18 ans, vous êtes originaire de Bastia, vous avez commencé les échecs à l'âge de 7 ans et après avoir remporté en 2023 le titre de champion du monde junior, vous êtes devenu en août dernier à Vichy champion de France d'échecs. En dominant en finale votre entraîneur, votre mentor, Laurent Fraissinet, 43 ans, bonjour.
Bonjour.
Grand maître, vous aussi, double champion de France, originaire des Landes, même si je crois que la Corse vous a adopté, et vous avez vous aussi adopté la Corse. Joueur donc, mais aussi coach, vous avez notamment accompagné pendant plusieurs années l'une des stars des échecs, le Norvégien Magnus Carlsen. Le maître et l'élève, donc réunis aujourd'hui dans ce 13-14, nous en sommes très heureux pour partager et expliquer votre passion qui manifestement est communicative, puisque que ce soit dans des parties réelles ou en ligne, les Français sont de plus en plus nombreux à pratiquer ce jeu d'échecs si c'est votre cas. 01 45 24 7000 pour faire parvenir vos messages, vous passez également via l'application Radio France. Cette grande finale, donc, vous êtes installé face à face dans ce studio. On va la revivre. 23 août dernier, nous sommes à Vichy.
Paire de fou pour les blancs, pion de plus pour l'instant pour les noirs, mais bon, il va pas faire long feu. Ça a l'air dur hein, pour Laurent.
Ouais, souffrance pour Laurent.
Donc la question c'est, est-ce qu'on fait échec ou pas puisqu'on est...
Ouais, parce qu'on peut replacer obligé, le coup ouais. Au prochain coup avec l'échec,
ouais,
c'est ça
voilà.
C'est plus malin si on veut menacer G5 de prendre d'abord.
Faire un... Fari. Bon, j'ai aucune idée de l'évaluation, mais je vais dire gain blanc quand même.
Les noirs vont devoir jouer fou E1 après, c'est ça, pour attaquer les pions, j'imagine. Ouais. Forcer une défense.
Mais bon, le pion, si on perd G5, le pion H, il peut courir très vite, quoi.
Ouais, il faudra sacrifier le fou dessus. Donc l'avantage de Laurent, on le rappelle, c'est qu'il peut juste attendre. Match nul. On sera là demain pour les départages. Ça risque d'être épique demain.
Voilà, c'était un match nul et puis le lendemain, c'était une victoire pour vous. Marc-Andrea Morizzi, j'ai pas tout compris au commentaire de cette finale, Laurent Frayssinet, mais j'ai compris souffrance pour Laurent.
Oui, ça a été compliqué. C'est-à-dire qu'on joue, le match en gros a été compliqué. Il y a eu 4 parties, donc il y a 2 parties. On n'a pas réussi à se départager sur ces parties. Évidemment, on joue une fois avec les blancs, une fois avec les noirs pour que ça soit équitable. Et voilà, un peu à domicile.
Jouer avec les blancs, c'est un peu plus avantageux.
Avec les blancs, on commence la partie, donc
c'est mieux.
On a un petit avantage. Et donc, on a fait 2 parties nulles. Et ensuite, on s'est retrouvés pour 2 parties supplémentaires pour nous départager. Et c'est vrai que le match a été globalement dominé par Marc-Andrea. Donc, c'était décevant pour moi. Mais c'était la victoire, au final, était plutôt logique.
Marc-Andrea, qu'est-ce que ça fait de se retrouver en finale des championnats de France face à son entraîneur, quelqu'un qui vous a peut-être pas tout appris, mais beaucoup appris?
Ouais, bah, c'était spécial. C'était la première fois qu'on se jouait dans un match aussi gros, quoi. Et c'était compliqué de se préparer contre lui parce que du coup moi je sais comment il joue et il sait comment je joue, donc c'était pas facile. J'ai essayé de donner le meilleur de moi-même et après vers la fin il a craqué, quoi.
Dans ces cas-là, on se dit il faut que je reste fidèle à ce que je sais faire, ou alors il me connaît tellement qu'il faut que je le surprenne.
Ouais, bah après j'ai hésité à vraiment changer mon style de jeu, mais le problème c'est que si j'aurais changé mon style de jeu, il joue mieux que moi dans son style de jeu, donc ça aurait été...
Vous êtes resté fidèle à vous-même. Et vous avez gagné comme ça.
J'ai fait du mieux que j'ai pu, oui.
Laurent Frayssinet, est-ce que vous vous y prépariez? Est-ce que vous vous êtes dit un jour, je vais y passer et de toute façon, il va me battre?
Oui, non, ça évidemment. En fait, je souhaite. Au niveau des générations, c'est tout à fait logique. Mais c'est vrai que c'était plutôt une bonne nouvelle parce qu'on avait les appareillements, le tirage au sort, et je savais que si on jouait ensemble, c'était en finale. Donc ça veut dire qu'on passait les tours d'avant, et donc c'était forcément une bonne nouvelle. Et après, le reste était du bonus. Et évidemment, je souhaite à Marc-Andrea de encore gravir de nouveaux échelons et aller battre le top mondial.
J'ai parlé de votre différence d'âge. Prendre de l'âge, Laurent Frayssinet, c'est un avantage ou c'est un handicap aux échecs? Parce que j'ai vu que le champion du monde avait 18 ans.
Voilà, c'est ça. Donc c'est jusqu'à 30 ans, disons, qu'on s'en sort. Après, on régresse petit à petit. Moins de concentration, moins d'endurance. Il faut savoir que les parties peuvent durer 6 à 7 heures. Donc il faut vraiment être en grande forme. La mémoire aussi, ça commence à être moins bien. Tout est moins bien.
Notre cerveau est moins efficace après 30 ans. Donc on est moins fort aux échecs,
c'est ça ? Il n'y a rien à faire. En tout cas, les résultats baissent. Et c'est déjà un petit miracle, en fait, que j'arrive à tenir un petit peu et être à ce niveau de compétition. Donc, j'en suis assez fier, finalement. C'est un petit miracle d'arriver à tenir face à Marc-Andrea, pas pour longtemps à mon avis, mais voilà, à donner quand même un petit peu de fil à retordre et à donner un match où il doit s'employer pour me battre.
L'ancien fait de la résistance en quelque sorte. Je voudrais qu'on revienne au tout début, Marc-Andrea Morizzi. Comment tout a commencé pour vous, famille de joueurs d'échecs? Pas du tout?
Alors, pas
à Bastia
du tout. Ouais, pas du tout. J'ai commencé à l'école quand j'avais 7 ans. Pendant le temps scolaire, je me suis inscrit en club la même année, ça m'a tout de suite plu. Et ensuite, j'ai continué, quoi.
Est-ce que vous savez pourquoi vous avez accroché?
Franchement, je sais pas du tout. Quand j'étais petit, j'essayais tout. Je faisais du rugby, du foot, j'ai tout essayé. Et les échecs, j'aimais bien l'ambiance au club. Il y avait des gens plus âgés, des gens plus jeunes. Franchement, j'ai directement aimé, quoi.
Laurent Frayssinet, pour vous, ça a commencé comment? Très jeune aussi?
Pareil, ouais, très jeune, à 8 ans aussi. Et un petit peu pareil que
Marc-André. Pas de joueur dans la famille?
Je me suis rendu compte aussi que je gagnais plus souvent. J'aimais beaucoup le tennis. J'hésitais vraiment entre le tennis et les échecs. Mais malheureusement, je perdais tout le temps au tennis. Et je gagnais très très souvent aux échecs. Et donc finalement, c'est ce qui a fait la décision. Quand on est enfant, c'est aussi ça. Le côté compétiteur a ressurgi à ce moment-là. Mais voilà, j'aimais bien l'affrontement avec la personne, le combat. Voilà. Chacun développe sa stratégie. Et finalement, c'est celui qui a fait la meilleure qui va gagner.
Le combat, vous faites un parallèle avec la boxe, même s'il n'y a pas du tout de coup de portée, évidemment, aux échecs.
Clairement, les sports se ressemblent, la boxe, le tennis. Les coups se répondent, Et finalement, il faut s'adapter en permanence à son adversaire. Un coup peut changer complètement la donne. Et c'est pareil aux échecs. Donc, c'est des sports qui se ressemblent beaucoup.
Est-ce qu'il y a, Marc-André Amaurudi, un profil de joueur d'échecs? Est-ce que parfois, en discutant avec quelqu'un ou en l'observant, vous dites, tiens, lui, il doit jouer aux échecs. Ça doit être un joueur d'échecs.
Je pense que bon, y a quand même beaucoup de stéréotypes sur les joueurs d'échecs. Je pense qu'ils sont pas totalement vrais, mais ils sont.
C'est
pas...
quoi les stéréotypes sur les joueurs d'échecs?
Ah, qu'on est un peu spéciaux, quoi. On va rester dans notre coin, enfermé. Ah. Mais bon, c'est pas totalement vrai, mais c'est pas totalement faux non plus.
Moi non plus, d'accord. Ça vous est arrivé de vous dire de quelqu'un qui peut-être était un peu renfermé, il doit jouer aux échecs et c'était
ouais,
le cas.
Ouais. Mais après, franchement, je pense que c'est une ambiance. Tout le monde est assez sympa. Il y a pas de malveillance. Je pense qu'on pourrait peut-être à certains autres sports. Franchement, c'est super bien, quoi.
Alors, le coaching, c'est aussi votre relation adversaire, mais aussi coach. Ça veut dire quoi, Laurent Frayssinet, être coach d'un joueur d'échecs? C'est des entraînements, c'est des stratégies qu'on élabore ensemble. Il y a du travail vidéo sur ce que font les adversaires, par exemple?
Bien sûr, avec des bases de données. Alors moi, j'aime pas le terme coach. Je suis un accompagnateur slash conseiller. Voilà, il est vraiment très fort maintenant. Mais la preuve, il m'a même battu. Voilà, donc je donne des conseils. Je regarde un peu de loin, même dans notre match, j'ai remarqué des choses. Peut-être qu'il faisait pas parfaitement, voilà, des perspectives d'amélioration, mais après c'est lui qui gère. C'est comme si on allait expliquer à Rafael Nadal, il a eu des coachs bien évidemment, oui, fais comme ça au cinquième set, ne t'inquiète pas. Non, en fait c'est le joueur quand même qui décide au final, qui prend ses décisions. Donc moi je suis un accompagnateur privilégié, voilà, qui peut orienter, mais au final c'est évidemment lui qui joue, il est seul sur échiquier.
Oui, il n'y a pas le droit de conseiller en temps réel, Marc-André Amaurudi.
Non, c'est avant la partie surtout. Et après, on va analyser les erreurs que j'ai pu faire pendant la partie. Mais pendant la partie, on peut pas parler, quoi.
Ça, c'est bien surveillé, c'est rigoureusement surveillé?
Ah oui, c'est dans tous les tournois. Maintenant, c'est de plus en plus strict depuis 2-3 ans, je pense. Donc maintenant, c'est comme ça.
Question de Laetitia de Quimper, maman de 3 enfants qui pratique les échecs, le plus jeune à 5 ans. Elle se retrouve assez seule dans sa catégorie, nous dit-elle. Je suis moi-même la seule femme licenciée de mon club. C'est un sport mixte, il faut promouvoir davantage ce sport auprès des jeunes filles. Laurent Frayssinet, il y a plus de jeunes garçons que de jeunes filles qui pratiquent les échecs?
Il y a plus tout simplement d'hommes que de femmes, malheureusement. C'est quelque chose qui est dur à, je crois que c'est 80-20 la proportion. C'est quelque chose qui est très difficile à enrayer. Il y a des choses qui sont faites, voilà, pour essayer de promouvoir les échecs féminins. On le regrette, évidemment. Et on encourage toutes les femmes, toutes les filles à nous rejoindre. C'est quelque chose qui est culturel depuis très longtemps. Et finalement, on voit que quand on arrive dans un club, comme elle le dit d'ailleurs, elle voit pas, il y a très peu de femmes, donc finalement ça les attire pas. Donc c'est un peu un cercle vicieux qui est dur à enrayer, mais on fait tout ce qu'on peut.
Marc-André Amaurudi, les hommes ne jouent pas contre les femmes aux échecs? Il y a deux catégories séparées?
En fait non, il y a les tournois mixtes.
Il y a des tournois mixtes, voilà, mais là les championnats de France, il y a deux titres de championnats séparés.
Oui, mais il y avait par exemple une femme qui jouait dans notre tournoi, par exemple. Et donc, en fait, on peut. Là, dans le championnat de France, c'est séparé, mais il y a ce qu'on appelle les tournois open. Donc, on peut jouer très bien 5-6 femmes dans le même tournoi.
Et il y a une inégalité, on va dire, où il y a des femmes qui ont été championnes du monde d'échecs, par exemple, Laurent Frayssinet?
Non, mais c'est aussi dû, évidemment, au nombre. Elles sont très peu de femmes et donc forcément, oui, nécessairement beaucoup moins
de possibilités d'arriver au niveau et d'obtenir des résultats. On a énormément de messages, je vous l'avoue, ce qui traduit la passion, l'engouement pour les échecs. D'ailleurs, certains nous disent on ne sait pas trop où se licencier, et c'est dû aussi à l'arrivée des échecs sur les plateformes, sur les applications et sur des chaînes dédiées. Nous sommes sur Chess24 ou Chess 24, je ne sais pas comment on dit, 2021. Laurent Frayssinet, vous êtes au commentaire.
C'est vrai qu'ils avaient l'air tellement pas énervés qu'ils jouaient, ils bougeaient même pas les pièces pour jouer. Bon, ça se posait des questions. Cavalier F3.
Et du coup, là, et en fait, tour A3 ou tour B3 était plus malin, mais tour H3 et roi G6, c'est là le seul coup qui gagne. La seule idée qui gagne.
Tour H1.
Non.
Tour H8.
Non.
Tour H7.
Non.
Je craque.
Laurent Frayssinet avec Jules Moussard au commentaire. Il y a beaucoup de gens qui regardent ces parties commentées en direct.
Alors voilà, de plus en plus de gens qui se connectent, qui regardent des shorts sur...
Des shorts, c'est quoi des shorts?
Des shorts sur TikTok ou YouTube, ou voilà, des petites parties d'échecs rapides et qui finalement s'y intéressent et finalement viennent à jouer des parties online. C'est tellement simple et c'est tellement adapté parce que Chess 24, justement. Pourquoi Chess 24? Parce qu'on peut jouer 24 heures sur 24. Si vous vous réveillez en plein milieu de la nuit, vous pouvez jouer contre un Australien qui n'est pas en train de dormir. Vous connectez sur n'importe quel site pour trouver des clubs. C'est assez simple aussi. Il y a vraiment quasiment 1000 clubs en France. Donc, il y en a un à côté de chez vous. Vous inquiétez pas, vous cherchez ça. Et c'est assez facile à trouver.
Marc-André Maurizzi, Nathalie qui habite Antibes, nous dit « J'ai 90 ans, j'ai commencé à jouer sur une application. » Est-ce que vous jouez toujours sur les applications?
La journée, quand je suis chez moi, je joue sur mon téléphone, sur mon ordi quand je suis sur mon téléphone quand je suis dehors et sur mon ordi quand je suis chez moi, et je peux jouer bien 5-6 heures par jour
En plus du jeu traditionnel.
Ouais, en plus du jeu où je vais faire des entraînements avec Laurent tout ça, mais je peux quand même jouer sur mon téléphone pour me détendre, je dirais.
Mais ça veut dire que vous jouez combien d'heures par jour?
Ça va dépendre des jours, mais au moins 6 ou 7 heures, je dirais quand même. Et puis même quand je joue pas, je pense aussi aux échecs, mais c'est une passion quoi.
C'est une passion et c'est aussi votre métier ?
Voilà, c'est ça. Au début, c'était vraiment qu'une passion. Maintenant, c'est une passion et un travail, quoi. Donc, on est obligé d'être plus pro.
Donc, pas de lycée ? Plus de lycée ? Vous avez eu votre bac ?
Plus de lycée, non. J'ai pas passé le bac.
Vous n'avez pas passé votre bac ?
J'ai pas passé le bac.
Vous le passerez pas ?
Pour l'instant, je pense pas. J'ai décidé de me consacrer à fond dans les échecs, voir où ça me mène. Et après, peut-être le repasser plus tard.
J'ai dit que le champion du monde avait 18 ans. Vous avez 18 ans. Est-ce que... c'est l'objectif des mois qui viennent?
Ouais, après, essayer déjà de progresser en tant que joueur. Après, champion du monde, c'est quand même très dur, mais pourquoi pas. Mais déjà, essayer de m'améliorer en tant que joueur.
Merci à tous les deux d'être venus parler d'échecs aujourd'hui. Aux très nombreux auditeurs de ce 13-14 qui nous envoyaient beaucoup de messages, vous l'avez compris. Laurent Frayssinet, Marc-André Maurizzi. Merci à tous les deux. 13h45 sur Inter. Une semaine dans leur vie, à la découverte depuis lundi, d'Ousmane Dembélé, la star du Paris Saint-Germain, le gamin d'Evreux qui a 28 ans, prétend au titre de meilleur joueur du monde de football. Le Ballon d'Or sera décerné lundi prochain. Alors nous retraçons son parcours chaotique jusqu'au sommet. Aujourd'hui, intéressons-nous à sa personnalité, car malgré ses performances, elle reste méconnue du grand public.
Ousmane, c'est quelqu'un qui déjà est très casanier. Il faut vraiment avoir quelque chose d'intéressant à lui proposer pour le tirer dehors. Il aime bien les documentaires, s'enfermer à la maison, surtout quand il fait un temps assez gris. Alors là, on est persuadé de ne pas le voir dehors. Il s'enferme à la maison, il se met un documentaire.
Quel type de documentaire?
Il aime bien l'histoire, les grands dictateurs, etc. Il aime bien... Alors moi, je suis Mustapha Diatta et je suis l'ami d'enfance à Ousmane. À l'école, c'était pas un génie, mais l'histoire, il était captivé par ça. C'est quelque chose qu'il aimait bien.
Moi, j'aime trop les documentaires, tu vois, sur Arte, sur le passé, sur ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale. Tout ça, je
kiffe. Mais t'as toujours été intéressé par ça ?
Ouais, toujours.
J'aime bien la variété française, du Charles Aznavour, des lors, par exemple, de nos virées, quand on faisait Barcelone-Paris, par exemple. On a toujours eu l'habitude d'écouter de la variété française et les chansons d'avant, les anciennes musiques françaises pendant la route. Et...
il chante, il connaît par cœur?
Ah oui.
C'est la case préférée?
Celle de Charles Aznavour, les musiciens, les magiciens, les comédiens.
Bien voir les comédiens, les musiciens. Voir les magiciens qui arrivent bien, voir les
comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Ça, il aime beaucoup, beaucoup cette musique.
Et dans un vestiaire, alors, il est comment, Ousmane Dembélé?
Arrête de me filmer. Ousmane
Dembélé. Lucas Hernandez, vous qui le fréquentez à la fois au PSG et en équipe de France.
Non, Ousmane aussi, on le connaît un peu, il est un peu tête en l'air. Des fois, il oublie ses choses, des fois... Il ne sait pas à quelle heure il faut arriver, mais non, à part ça, c'est une personne extraordinaire. Moi aussi, en tant qu'ami, on se voit aussi beaucoup en dehors du terrain, ça soit pour aller dîner, pour aller manger, pour faire des barbecues. Et du coup, j'aime bien passer beaucoup de moments avec lui et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup.
Ousmane Dembélé,
Je suis Guy Stéphane et je connais Ousmane Dembélé depuis plus de 10 ans. Quand vous m'évoquez son nom, Ousmane Dembélé, je vois son sourire. Voilà. Et je vois les filets trembler.
Dembélé est 3-1 pour l'équipe de France.
Il aime plaisanter, il aime faire des blagues, il aime retrouver ses potes de sa génération ou même un petit peu plus. Voilà, il est très très agréable dans un groupe et surtout il aime le jeu, il a beaucoup de plaisir à faire ce qu'il fait sur le terrain.
On n'a jamais peur, on n'a jamais peur, défendre nos couleurs, défendre nos couleurs.
Christian Lecoq, moi je suis médecin au Stade Rennais depuis 28 ans au centre de formation.
Moi j'ai un souvenir d'un début de saison où on avait fait, on leur fait des petits topos sur la préparation invisible, sur les étirements, sur l'hydratation, sur le sommeil, tout ce qui est important chez un jeune footballeur. Et je leur avais dit, ben, un jour on fera une interro quand même pour voir. Et Ousmane, il faisait toujours un peu évaporé, je vais dire, il n'écoutait pas trop. Et quand on a fait l'interro, eh ben, il avait quasiment tout bon.
Ousmane Dembélé, vu par ses proches. Suite et fin demain et à retrouver sur l'application Radio France.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France, le jeudi à 13h50, la France à table avec Marie-Luce Ribot du journal Sud-Ouest en direct de Bordeaux, mais aujourd'hui par téléphone en raison d'un appel à la grève déposé par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de Radio France contre la politique d'austérité et les restrictions budgétaires qui pèsent sur l'avenir du service public de la radio. Marie-Luce, on vous retrouve et vous nous parlez du verju qui revient en force dans la cuisine des chefs et dans les cocktails. De quoi s'agit-il ?
Tout est dans le nom, le verjus. C'est un jus tout vert. Il est produit avec des graines de raisin, blancs ou rouges, qui ne sont pas encore arrivées à maturité. On le récolte avant que les grappes se gorgent de sucre et ce liquide acide un peu âpre est pasteurisé, c'est-à-dire chauffé, afin de le conserver. Au Moyen-Âge, avant l'arrivée du citron, le verjus était dans tous les foyers, dans tous les plats. Pour simplifier, une rasade servait à déglacer et récupérer les sucs de cuisson, à élaborer une sauce ou une vinaigrette, à piquer au vif un dessert. Le verjus, il avait presque totalement disparu, mais effectivement, le voici ressuscité par les chefs étoilés et les mixologues, ces nouvelles stars nées de la mode du cocktail. Vous en trouverez dans les épiceries fines et sur Internet pour environ 6 euros les 33 centilitres.
Ça a quel goût le verjus ?
Bon alors, comme beaucoup de produits acides, le verjus est évidemment dur à apprivoiser. Vous trouverez bien entendu des notes de raisin dans une gorgée, mais aussi des arômes de pomme Granny Smith. Le chef Bertrand Noireuil, la nouvelle coqueluche de Bordeaux, 2 étoiles au Gabriel, l'utilise énormément. Le remettre au goût du jour dans ce terroir viticole qu'est le Bordelais m'est apparu comme une évidence, nous dit-il. Pour lui, si le citron libère une acidité ciselée nette, le verjus offre des saveurs plus vertes, celles de la rhubarbe, de la poire précoce, de l'oseille. Bertrand Noireuil, un peu poète, aime caresser son verjus avec du miel. Il y fait infuser des feuilles de vigne, des pétales de rose et de coquelicot. Il lui adjoint du beurre pour des sauces à poisson.
Pourquoi revient-il à la mode, Marie-Luce ?
Bon, d'abord, la production, soyons honnêtes, est encore anecdotique. Mais elle se développe. L'une des plus anciennes maisons, le domaine de Siorac, en Dordogne, a augmenté sa cadence de 2000 à 10 000 litres en 10 ans. Dans cette exploitation bio, qui fait aussi du vin et du jus de raisin, le verjus représente 50% du chiffre d'affaires et la moitié part à l'export. Une aubaine, alors que le vin français est en crise, frappé par une baisse structurelle de sa consommation, par des droits de douane exorbitants, aujourd'hui américains, hier chinois, et par la concurrence des vignobles du Nouveau Monde. Le verjus peut donc devenir, parmi d'autres, un débouché pour le monde viticole. Quand on pense à toutes les vignes que l'on a en France, pourquoi ne pas en profiter pour développer la production ? S'étonne Bertrand Noireuil. Mais ce n'est pas tout, renchérit Muriel Landa Prado du domaine de Siorac. On le sait, le citron est le principal concurrent du verjus. Or, cet agrume est essentiellement importé. Le verjus, lui, est 100% français. Autre atout, une fois ouvert, il se conserve plus longtemps. Jérôme, la guerre du verjus et du citron aura-t-elle lieu ? Bon, là, c'est une autre histoire.
Oui, on va passer à la recette, celle de Bertrand Noireuil.
Oui, il nous régale avec un carpaccio de dorade ou de maigre au verjus. Débitez votre chair de poisson en lamelles très fines. Préparez ensuite la marinade en mixant 15 g de gingembre finement haché, 20 g de miel de fleur d'acacia, 100 g de verjus, 200 g d'huile d'olive. Si vous voulez une note exotique, vous pouvez ajouter des grains d'une gousse de vanille. Une fois l'ensemble monté comme une mayonnaise, nappez le carpaccio. Vous pouvez poser quelques brins de thym citron ou de ciboulette. Cette sauce soyeuse sera aussi formidable en apéritif avec des bâtonnets de carottes et de fenouil ou de chou rave. Elle est aussi idéale pour des carottes râpées. Le verger Jérôme est décidément un produit tout terrain.
Une recette que vous retrouvez sur la page de C'est la France via l'application et le site Radio France. Merci Marie-Luce Ribaud. De C'est la France à C'est une chanson. On retrouve la romancière et scénariste Florence Sébos à votre micro, Frédéric Pommier.
Florence Sébos qui a reçu il y a quelques mois le prix du Livre Inter
ici même
pour son magnifique « Un perdant magnifique ». Et c'est de Bob Dylan qu'elle a souhaité parler avec une chanson sortie il y a 5 ans, en 2020.
C'est le confinement, donc chacun chez soi. La radio et les chansons prennent énormément de place. Bon, nous, on avait la chance d'être dans une ambiance assez douce, mais on a pris très vite l'habitude de mettre des chansons à tous les repas. On déjeunait ou on dînait toujours en musique. Et puis, dans cette période tellement étrange, il y a quelque chose qui arrive tout à coup et qui, pour moi, ressemble au miracle de la radio. Parce que j'ai toujours été fascinée par la radio. Voilà, on allume la radio et puis il y a des voix qui nous arrivent aujourd'hui encore. Je ne sais pas du tout comment ça marche, la radio, mais pour moi, c'est extraordinaire. Et donc, parmi ces voix qui nous arrivent alors qu'on est enfermé chez soi, bah, tout à coup, on a comme une lettre de Bob Dylan. Une chanson incroyablement longue.
Plus d'un quart d'heure.
Plus d'un quart d'heure. Qui porte un titre qui vient de Shakespeare, de Hamlet. Murder Most Foul, qui signifie un meurtre des plus horribles, des plus atroces. Et il parle de l'assassinat du président Kennedy. Et à travers, en fait, cette chanson, il fait un portrait de l'Amérique et de la culture populaire américaine.
It was a dark day in Dallas, November 63. A day that would live on in infamy. President Kennedy was a rattling high. Good day to be living and a good day to die. He led to the slaughter like a sacrificial lamb. He said, wait a minute, boys, you know who I am.
Alors, cette chanson, Frédéric, est comme un long monologue poétique.
Monologue hanté par la scène de l'assassinat de Kennedy.
Il y a des phrases terribles dans cette chanson. À un moment, il dit « abattu comme un chien, en pleine lumière, en plein jour ». Et puis, on a le sentiment qu'en fait, il parle avec une grande colère de l'assassinat du président Kennedy, mais ce qu'on ressent, il me semble, c'est qu'en fait, il parle de l'Amérique assassinée. Et cette chanson, elle sort et c'est la dernière année du premier mandat de Trump. Et cette chanson, je crois qu'elle est absolument dans le présent, et dans le présent de l'Amérique.
Cette lettre, puisque c'est le terme que vous avez employé, cette lettre que Dylan nous a envoyée pendant ce confinement, vous avez l'impression qu'elle a mis quoi dans votre vie à ce moment-là ?
Elle nous apportait le monde dont on était privé, et la complexité, et le chagrin, et la beauté des chansons. Et cette chanson, en plus, elle est extrêmement particulière, parce que par moments, c'est presque du parler-chanter. Et puis en plus, pendant le confinement, elle est tellement longue, il y a tellement à découvrir dans les paroles, c'est tellement riche, on se met à l'écouter tous les jours et on n'en est jamais lassé.
It was a hard act to follow, second to none. They killed him on the altar of the rising sun. But they missed you for me and that old devil moon. Anything goes at Memphis in June.
Bob Dylan, vous l'avez déjà vu sur scène ?
Alors, ce qui est fou, c'est que j'ai vu Bob Dylan sur scène après le confinement, au Grand Rex. Et c'était un moment extraordinaire, parce qu'il paraît que c'est un petit peu qui tout double les concerts de Dylan. Parfois, il n'a pas très envie de chanter. Un ami m'a dit qu'un jour, il avait fait un concert en tournant le dos au public. Et là, c'était un merveilleux concert. Il chantait merveilleusement bien. Il a joué du piano et j'étais fascinée. Alors j'attendais qu'il chante Murder Most Foul, mais tout le monde m'a ri au nez en me disant « Mais il va jamais chanter en concert une chanson d'un quart d'heure. » Et moi, je trouvais qu'avec des antisèches, il aurait pu le faire. Mais bon, c'est pas grave. C'était un moment extraordinaire. They love me or leave me by the gripper town. Play the bloodstained banner, play murder most foul.
Bob Dylan, Murder Most Foul. C'était donc, Frédéric, le choix de Florence Sévos.
Florence Sévos, dernière lauréate du prix du Livre Inter pour son roman Un perdant magnifique, s'est publié aux éditions de l'Olivier.
Merci Frédéric et à demain.